Donc tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Dans un premier temps, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Marie-Odile pour m'avoir fait confiance, donc pour mon intervention de ce matin. Donc je vais commencer par vous dire quelques mots sur mon parcours. Donc Marie-Odile a commencé à me présenter comme travaillant à l'ISPEF. Oui, je travaille à l'ISPEF en sciences de l'éducation à Lyon 2. Je suis aussi doctorante avec justement Alain Carland. Le titre de ma thèse est l'évolution de l'islam en France et ses répercussions sur la question éducative. Donc une thèse qui est en cours. Et je suis aussi chargée de cours. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ma thèse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail de recherche, justement, que j'ai effectué en 2011, sous la direction d'Alain Carland, parce qu'il était directeur scientifique de ce dispositif. Donc, ce travail de recherche portait sur un dispositif scientifique artistique expérimental dans un collège de Montpellier qui s'appelait les Escoliers de la Mausson. Mon travail s'inscrivait donc dans une recherche évaluative donc plus générale, qui est commandé par le Conseil Général de l'Hérault et l'association Hérault Musique Danse et confié au laboratoire éducation, culture et politique sous donc la direction d'Alain Carland. Donc mon travail, en quoi consistait-il? Il était en direction des familles. Mon travail donc était en direction des familles, mais dans cette recherche, de nombreux autres aspects étaient pris en compte dans cette recherche globale. Notamment les effets de la classe artistique sur les élèves et leur scolarité, sur les enseignants, les artistes, bien sûr. Donc je vais profiter de cette occasion, un peu de publicité ne fait jamais de mal, pour vous annoncer la parution prochaine, en juin 2015, d'un ouvrage issu de cette recherche, qui est publié aux éditions de La Tribu sous le titre « Un collège saisi par les arts », dont c'est un livre dirigé par Alain Carland. Donc, mon intervention va se dérouler en trois temps. Un premier temps sera consacré au dispositif de la classe artistique expérimentale lui-même et à la présentation de la mission d'étude qui m'a été confiée. Donc cette mission était « Quelle médiation pour la classe artistique ?» Et aussi, je vais vous présenter la démarche que j'ai mise en œuvre. Donc le second temps sera consacré à la présentation des différentes phases de l'enquête et les enseignements qui en ont émergé, notamment un certain malentendu entre les parents et l'école. Le troisième et dernier temps sera destiné à vous présenter une vue d'ensemble de la manière dont ces parents d'élèves de la classe artistique perçoivent le dispositif de la classe et surtout le collège et plus précisément leur relation avec le collège. Et je finirai par ma conclusion, donc, qui seront les réponses que j'ai tenté d'apporter à la question qui m'était posée, quelle médiation mettre en place pour la classe artistique. Donc je vais commencer par la présentation donc du dispositif. Donc ce projet de recherche s'inscrit, je vais plus le développer. Donc s'inscrit donc dans le cadre d'une expérimentation pédagogique initiée par Hérault Musique Danse. Donc l'installation dans un collège, les Escoliers de la Mausson, à Montpellier, dans le quartier de la Mausson, pour ceux qui connaissent Montpellier. Donc l'installation d'une classe artistique expérimentale. Donc de la classe de 6e jusqu'à la classe de la 3e, jusqu'à la classe de 3e. Donc à l'ouverture, cette classe en 6e, donc elle se composait de 19 élèves venant de milieux populaires, pour une grande partie de familles immigrées, donc en particulier d'origine marocaine et de gens du voyage sédentarisés. Donc ce dispositif repose sur une hypothèse corroborée par de nombreux travaux. Donc la pratique artistique apparaît désormais comme un élément efficient et reconnu pour ses effets pédagogiques et bénéfiques. Donc ces mêmes élèves, du début à la fin de la scolarité du collège, bénéficient d'une organisation des enseignements accordant aux pratiques artistiques une place centrale. Donc en classe de 6e, La première année durant laquelle j'ai réalisé les enquêtes principales, les élèves découvraient la danse contemporaine, 6 heures chaque semaine, avec la compagnie Les gens du Quai, dirigée par la chorégraphe Anne Lopez. En classe de 5e, c'était un atelier d'écriture, et en même temps, la résidence d'une compagnie théâtrale. En 4e, une résidence musicale. Et en classe de 3e, une nouvelle compagnie théâtrale, mais qui travaillait avec des plasticiens et des musiciens. Donc, je dois en venir à la genèse du dispositif. Pourquoi cette expérience dans ce collège ? Donc, la présentation du collège, telle que l'on peut la trouver dans le projet pédagogique de la classe artistique, rédigé conjointement par les enseignants du collège, les écoliers de la Mausson et Héros Musique Danse, situe les enjeux. Donc, toutes les statistiques établies au plan académique montrent que les élèves du collège, les écoliers de la Mausson, présentent des résultats scolaires très faibles. Ainsi, par rapport à la moyenne des élèves du département, les résultats aux évaluations d'entrée en 6e sont inférieurs de 20%. On note aussi un écart de réussite de 20% aux épreuves du diplôme national du brevet. Enfin, le taux d'élèves ayant un retard supérieur en 2 ans en classe de 3e est 5 fois plus important dans cet établissement que sur le reste du département. Au-delà de tels résultats, il faut noter donc la difficulté pour ces élèves à trouver leur place dans la forme scolaire et à entrer dans leur rôle d'élève. Donc, motivation pour l'étude, autonomie dans le travail personnel, sens de l'effort, curiosité intellectuelle. Une autre problématique, la difficile maîtrise de la langue française, à considérer dans le contexte sociologique du quartier, fait obstacle à l'ensemble des apprentissages. Enfin, nombre de ces élèves n'accèdent pas facilement aux éléments fondamentaux d'une culture commune. Ils sont ainsi privés de l'ouverture intellectuelle et du lien social que la culture peut garantir. Ces difficultés donc s'inscrivent dans le contexte social du quartier de la Mausson, à Montpellier, où l'on compte parmi les familles des élèves de l'établissement plus de 80% de catégories sociales et professionnelles défavorisées, contre environ 30% sur le plan national. Et seulement 3% de catégories sociales favorisées, contre 35% environ au plan national. Et à cela s'ajoute un taux de population étrangère de près de 50%. Donc l'ensemble de ces éléments cumulés ont conduit l'établissement à être placé tout d'abord en zone d'éducation prioritaire, puis en zone de prévention violence, puis enfin en réseau, ambition réussite. Donc je vais développer maintenant les conditions de ma mission. Donc bien sûr, le lancement à Montpellier d'une classe artistique expérimentale dans le collège où les parents d'origine populaire sont issus le plus souvent de l'immigration maghrébine ou bien appartiennent à l'importante communauté gitane de la région de Montpellier, et la commande des incitateurs et financeurs de ce projet, Héros Musique Danse. Donc la commande était comment développer la relation avec les familles et l'école, et plus particulièrement, comment rapprocher les parents de ce dispositif, quelles modalités mettre en œuvre pour favoriser ce rapprochement. Donc ma mission, étudier les relations entre les familles du collège et cette classe particulière et proposer des modalités de médiation. On pourrait se poser une question, pourquoi cette mission ? Parce que le lien école-famille, s'agissant des familles dites défavorisées ou d'origine immigrée, est le plus généralement regardé comme un lien potentiellement ou effectivement déficient. Supposé éloigné de l'école et de la culture, cette famille type se trouve d'emblée considérée comme un obstacle potentiel à une scolarité réussie, comme un facteur probable de difficulté. En conséquence, la médiation nécessaire est le plus souvent conçue ou préconçue à partir de cette conception défective. Cette conception ne risquait-elle pas de peser d'emblée sur la classe artistique, ouverte au collège des écoliers de la Mausson ? dans la mesure où elle allait prendre appui sur l'art, et plus encore sur l'art contemporain, ne devait-on pas craindre une distance accrue entre les parents et le collège, entre la culture des familles et celle portée par le collège? Donc d'un côté l'art que la sociologie spontanée considère comme fort éloigné des valeurs de la culture du pauvre, selon Hogarth, plus encore en classe de 6e un art vivant, la danse contemporaine, réputée un milieu de la culture populaire, autant dire le pur langage du corps, quand le corps et son langage sont souvent marqués par l'interdit culturel et le clivage des sexes et des genres, ou des genres. De l'autre côté, une culture populaire que ses valeurs éloignent de l'art contemporain en général et de la danse contemporaine en particulier. Donc la distance supposée entre les familles et la culture que la classe artistique allait apporter à leurs enfants inquiétait donc les responsables du projet et de l'équipe enseignante. Donc cette distance n'allait-elle pas nuire aux objectifs du projet ? Comment les enfants pourraient-ils mieux réussir à l'école grâce à l'art si les familles en demeurent trop éloignées ? Comment les parents pourraient-ils être les partenaires éducatifs souhaités s'ils se sentent trop éloignés du projet ? C'est donc pour cette raison que Héros Musique Danse jugeait nécessaire qu'une médiation soit mise en place. Mais laquelle ? On pourrait dire lesquelles ? Mais il me semble nécessaire d'ajouter que cette question, les responsables du dispositif, les enseignants et Héros Musique Danse, c'est pas eux qui se la sont posée directement. En fait, cette question est arrivée au cours d'une réunion avec l'association L'École des Familles de Montpellier. Et c'est à partir de là que cette problématique a émergé. Il me semble important de noter cette particularité parce que, curieusement et peut-être symptomatiquement, cette question n'avait pas été envisagée. Est-ce que c'est un oubli significatif ? Donc maintenant, nous allons arriver à mon choix méthodologique, l'entretien compréhensif. Donc, sur quelle base mener cette analyse ? Il ne pouvait s'agir que d'un travail qualitatif. Une enquête plus proche de la démarche anthropologique s'imposait naturellement. Je dois noter qu'une des difficultés de cette recherche était évidemment d'installer une relation de confiance avec les familles, et ceci ne pouvait être possible qu'avec la mise en œuvre d'un entretien compréhensif, un entretien qui favorise le récit de vie. Donc, selon la formule de Kaufmann, donc, c'est une co-construction du sens. Et j'insiste vraiment sur ce terme, une co-construction du sens. Il s'agissait de produire avec nos interlocuteurs une analyse de leur vécu scolaire et culturel. C'est pourquoi il importait que je n'apparaisse aux yeux des familles ni comme une représentante du collège, ni même comme une émissaire de la société. Donc le second temps, on va arriver au déroulement de l'enquête. Donc je vais vous présenter le déroulement de l'enquête et j'en tire deux grands moments dont je tire certaines conséquences. Ah, je me suis trompée. Une petite erreur. Non, je ne me suis pas trompée. C'est bien cela, excusez-moi. Donc le premier grand moment, pour pouvoir construire mes entretiens, donc dans un premier temps, j'ai voulu entendre des enseignants et des personnels du collège qui n'étaient pas liés à la classe artistique. Je pense que vous comprenez aisément pourquoi. Leur implication dans la classe artistique pouvait être un biais à mon travail. Donc, suite à ces entretiens exploratoires, j'en ai sélectionné trois. Il y en a eu beaucoup plus, mais ces trois m'ont paru particulièrement pertinents pour mon travail. Et donc, j'en ai sélectionné trois qui, par leur richesse et leurs différences, donne une vue assez juste de la complexité des relations école-famille. Donc, je vais commencer par vous résumer rapidement l'apport de ces trois entretiens. Très pratique. Donc, nous allons commencer par M. K. Donc mon premier informateur est assistant d'éducation au collège, les Escoliers. Il est d'origine marocaine. Donc nous l'appellerons Monsieur K. Il travaille au collège depuis fin 2006 et K connaît très bien les habitants du quartier. Selon lui, s'il y a des familles qui quelquefois osent franchir les portes du collège, c'est grâce à son rôle d'intermédiaire. Donc moi j'y suis un peu plus pour ces familles-là, depuis quelques mois maintenant. J'ai un peu plus de parents qui viennent parce qu'ils sentent que je peux les aider. Donc le quartier selon K. Une bonne connaissance des familles, selon lui, suppose une bonne connaissance du quartier où elles vivent. Et c'est particulièrement dans le quartier de la Paillade, où est le collège. Et sur ce point, M. K se révèle être un expert. Donc lorsque je demande à M. K de me parler de ses relations avec ses familles, il me parle d'amitié. Il me dit qu'il y a des liens qui sont créés, j'ai des amis de mes parents. Il y a leurs enfants ici, je vais chez eux, mais ce n'est pas par rapport au travail, parce que c'est des amis. Lorsque je lui demande de me parler de l'idée que se font les familles du collège, de la perception qu'elles en ont, la première chose dont il me fait part concerne une forme de désarroi des parents face au comportement scolaire de leurs enfants. Il me dit, donc je le cite, « On me dit toujours nos enfants, on ne les comprend pas. Ils ont eu ce qu'on n'a pas eu. » La plupart des parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne travaillent pas à l'école, ne s'appliquent pas. Donc l'action éducative de K, de M. K, la Mosson, ne se limite pas au collège. Dès le début de notre entretien, il insiste sur son rôle au sein d'une association. Donc il est le correspondant principal d'une association en nombre d'adhérents donc dans ce quartier, et c'est la plus grosse association sur le quartier. Et le football est au cœur de cette association. Et K y voit comme un pendant de l'école, un lieu éducatif capable même d'agir au profit de l'école. Mais donc, revenons aux familles selon K. Donc, il me parle de la répartition des rôles et des compétences au sein de la famille, qui est une première indication. Donc, selon lui, les pères sont pour la plupart des ouvriers et effectuent des travaux pénibles. Donc, on pourrait dire que là, le rapport au travail... ici, et de toute évidence, laisse peu de place au rapport à l'école et aux apprentissages scolaires, du moins en termes de compétences, que nous ne devons pas confondre avec la valorisation de l'école et de l'étude, tout à l'inverse de cette distance obligée. Et du côté des mères, il me dit qu'elles veulent venir au collège, mais n'osent pas venir. Donc je le cite, « Certaines mamans viennent parce que je suis là, elles savent qu'il y a quelqu'un qui va traduire et qui va les aider. Donc il serait trop simple de dire que leur est dévolue la responsabilité de la scolarité des enfants, donc aux mamans, mais leur mode de socialisation sans doute penche un peu plus de ce côté-là. Mais certainement pas sous l'aspect de la responsabilité rationnelle et culturellement impliquée dont rêvent souvent les enseignants. Je lui pose cette question. Alors, selon lui, quelle médiation sera nécessaire? Donc, la réponse de K ne marque nulle hésitation. Selon lui, il faut essayer de comprendre les parents. Et il ajoute, en parlant particulièrement des enseignants, et qu'ils arrivent à se mettre à la place des parents, et s'ils arrivent à se mettre à la place des parents, ils pourraient apporter des solutions. En résumé, on pourrait dire que la posture de cet assistant d'éducation se caractérise par une forte identification aux parents et une vive sensibilité à leur situation. Donc c'est le premier exemple, le premier entretien. Donc le second entretien sélectionné pour cette présentation est un enseignant du collège, et nous l'appellerons Monsieur M. Donc Monsieur M connaît également très bien le collège, où il est en poste depuis cette année. Donc, concernant la question des relations avec les familles, il est très clair. Moi, me déclare-t-il, je me concentre plus sur les élèves. Et il ajoute, à quoi bon s'acharner à demander aux familles ce qu'elles ne peuvent pas donner, d'apporter ce que l'on sait pertinemment qu'elles ne peuvent pas apporter. Il fait le choix de poser tout l'effort sur le travail avec les élèves et s'en explique. Toutefois, le cœur du propos de Monsieur M est ailleurs. Du côté du sort que réserve le collège et selon lui bon nombre d'enseignants aux parents d'élèves. Lorsqu'il évoque les moments où les parents entrent en relation avec le collège et ses professeurs, rencontre de fin de trimestre, convocation, ce professeur fait d'emblée état de son désaccord et de son profond malaise face aux modalités et au contenu de ces rencontres. Et donc il explique ce malaise par cet aveu. Souvent je suis parent d'élève avant d'être prof. Et cette identification aux parents, venue recouvrir le statut, voire la fonction d'enseignant, conduit Monsieur M, par une sorte d'empathie, à décrire le désarroi et la souffrance des parents affrontés à ce monde qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne les comprennent pas, en des termes particulièrement vifs. Je vois des collègues qui sont très virulents contre les parents. Moi, je n'y arrive pas. Je vais dire ce qui ne va pas, mais j'essaie quand même de relativiser. Il y a aussi le problème du langage, donc j'essaie de leur parler autrement. Il a, donc Monsieur K a cette particularité de se situer du côté du ressenti parental et d'éclairer de façon brutale mais salutaire le profond malentendu dans lequel peut basculer la relation des familles avec les enseignants et le collège. En résumé, l'entretien tourne autour de cet écartèlement, entre une posture d'enseignant et une posture de parent. Je vais finir ces exemples avec le dernier entretien que j'ai choisi de vous présenter. Donc celui-ci concerne Madame L. Elle enseigne le français aux écoliers de Mamousson depuis une douzaine d'années. Donc pour Madame L, c'est le suivi scolaire qui fait cruellement défaut chez ses élèves en échec scolaire. Mais elle comprend aussi qu'il est bien souvent hors de portée pour ses familles, débordées, dépassées par la tournure que prend la scolarité chaotique de leurs enfants. Madame L commence par me dire que les rencontres avec les familles se passent bien, très bien. Mais elle ajoute, même si c'est un peu décevant, on sent les familles sans moyens. Un peu dépassées par les événements, qui savent que l'enfant est en échec, mais qui ne savent pas comment faire. Et elle précise, il m'appartient de faire en sorte que les enfants prennent conscience qu'il faut travailler. Il y a dans cette analyse de Madame L un constat lucide, mais elle ne baisse pas les bras. L'enseignante estime qu'il lui appartient de faire en sorte donc que les enfants prennent conscience qu'il faut travailler, apprennent ce que certains sociologues appellent le métier d'élève. Donc Madame L a donc une compréhension de la nécessité du rôle de parent et de la difficulté pour eux de s'inscrire dans ce rôle. En résumé, donc, elle a une posture de compréhension et d'empathie, mais avec les limites d'un modèle de communication rationnelle. Et donc, elle pense qu'il suffit d'expliquer, d'éclairer la boîte noire qu'est pour les parents l'école. Je reviendrai plus tard sur cette fameuse boîte noire. Donc, suite à ces entretiens, on pourrait dire que la question, en tous les cas, comment la question de la reconnaissance émerge en filigrane. Donc, si nous reprenons les propos de Monsieur K, Madame, Monsieur M et Madame L, on s'aperçoit que la question de la reconnaissance des parents en tant qu'interlocuteurs et acteurs semble être le problème central. Mais au fond, que veut dire reconnaître les parents? Et est-ce que cette demande de reconnaissance existe bien chez les parents? Comment s'exprime-t-elle? Quel est son contenu? Donc c'est le second moment, les entretiens avec les parents. J'en viens donc à ce moment de l'enquête, l'étape des entretiens compréhensibles avec les parents, et qui sont menés, comme je vous l'ai précisé pendant ma présentation, comme des récits de vie. Donc, après une certaine timidité sociale, les parents, en général, m'ont très bien accueilli. Et ils étaient pour la plupart ravis que je les rencontre. Et cette phrase est très souvent revenue. Pratiquement, je pense, avec 80% des parents. C'est la première fois que l'on me demande mon avis. Pour revenir au dispositif et quelle médiation mettre en place, la commande donc, on peut dire que dans un certain sens, mon intervention auprès des parents était déjà un début de médiation. J'étais donc, il me semble, à ce moment-là, un vecteur de médiation. Donc, un exemple très significatif. Une maman me dit, quand on parlait de la question de l'art à ce moment-là, il me semble. Et elle me dit, quand vous me posez des questions, ça me fait réfléchir à des choses. J'ai pas l'habitude de penser à ces choses. On a là en germe une illustration de ce que Kaufmann appelle la co-construction du sens et une indication très significative de la dimension de reconnaissance que suppose la médiation. À mon étonnement, j'ai rapidement constaté que la majorité des parents rencontrés semblaient ignorer complètement le fonctionnement de la classe artistique, l'organisation de ce dispositif. Ils avaient une vision très lointaine de ce que leurs enfants faisaient. Et ils me diront souvent qu'on ne leur en avait pas parlé, ce qui est parfaitement inexact, alors que le collège avait fait un effort de communication, avait organisé une réunion à laquelle les parents étaient présents. Mais de bonne foi, me semble-t-il, les parents n'avaient pas intégré le message. Et j'ai un autre exemple, donc, d'une maman qui me dit « Normalement, l'école, ils doivent nous contacter, nous donner un rendez-vous. » Nous demander « Qu'est-ce que vous pensez de cette danse ?» Mais non, on a fait cette danse et voilà. Mais on n'a rien entendu de cette danse. Et je pourrais confirmer ce propos avec un entretien très riche aussi, mais je ne pouvais pas vous en parler parce que j'ai quand même pas mal... J'ai du temps, mais une heure n'est pas extensible. Donc, l'entretien que j'ai eu avec un des CPE de ce collège. Quand on a parlé du dispositif, la première chose qu'il m'a dite, mais est-ce que, avant de mettre en place ce dispositif, est-ce qu'on a sollicité les parents? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis sur les activités culturelles, sur la danse contemporaine, le théâtre? Est-ce qu'on l'a fait? Donc ça regroupe complètement, ça recoupe ce témoignage. Mais il me semble essentiel de comprendre pourquoi ce message n'est pas passé. Donc, partons du principe que les parents et les enseignants sont de bonne foi. Les enseignants ont bien informé les parents, mais les parents n'ont pas pu percevoir, intégrer le message. Pourquoi ? L'explication que je suis conduite à proposer nous avons affaire à deux attentes de communicationnelles différentes. Pour les enseignants, la façon de communiquer avec les parents est d'éclairer la boîte noire. Donc la boîte noire, c'est ce que le collège est souvent pour les parents, un monde obscur dont ils ne connaissent ni les contenus, ni les fonctionnements. Donc si on leur explique, la communication sera rétablie. Pour les parents, l'éclairage de la boîte noire ne suffit pas. Il semble que leur demande n'est pas seulement qu'on leur explique, mais qu'on les considère comme des interlocuteurs à part entière. On peut même aller jusqu'à faire l'hypothèse que cette reconnaissance comme interlocuteur est la clé de la communication. Donc, je vais parler maintenant du regard que les parents portent sur le collège et sur la classe artistique. Et ce regard que les parents portent sur le collège et la classe artistique confirme cette hypothèse. On peut en retirer deux principaux enseignements. Donc, en ce qui concerne le collège, on constate une délégation de confiance et en même temps une distance teintée d'incompréhension. Une maman me dira, vous savez si l'école a décidé que c'est bien. Ils veulent que nos enfants réussissent, ils savent ce qu'ils font, même si je ne comprends pas toujours. Il me semble qu'il y a, eux et nous, une sorte de malentendu latent. Et les enseignants tendent à interpréter cette délégation de confiance des parents comme une sorte de démission. En ce qui concerne le regard des parents sur la classe artistique, aucun rejet et même un certain enthousiasme. en général, ils sont ravis, ils sont tous ravis de voir leurs enfants heureux. Et donc, si les activités culturelles contribuent au bonheur et à l'épanouissement de l'enfant, c'est essentiel. Ils accordent au collège une confiance de principe. Si l'école a fait ce choix, il n'est pas discutable. Et ils sont convaincus que l'école veut le bien de leurs enfants. Donc, de fait, la classe artistique est nécessairement bonne. Leur réception de la classe artistique est un exemple de la très forte reconnaissance du collège et des enseignants de la part de ces familles issues de milieux populaires. On peut parler ici d'une dissymétrie de la reconnaissance. Donc du côté des parents, une très forte reconnaissance du collège et des enseignants, mais du côté des parents aussi le sentiment de ne pas assez exister aux yeux de l'institution. Et je voudrais préciser que la seule famille qui avait des réticences sur le projet, parce qu'il y en a eu une quand même, était une famille dont l'enfant était extrêmement bien intégré dans le système scolaire, l'avait très bon résultat, était une très bonne élève, très suivie par ses sœurs, et cette famille ne voyait aucun intérêt au dispositif et s'en inquiétait même. Je vous laisse en tirer les conclusions. Donc, le dernier élément de l'enquête auprès des parents portait sur la manière dont ces parents se situent par rapport à l'art et la culture. C'est extrêmement intéressant. Donc, il faut d'abord que je vous rappelle que la demande de médiation reposait sur la crainte d'une trop grande distance entre les parents et les formes d'art qu'allaient connaître leurs enfants. Donc, le premier enseignement de mes entretiens est que cette crainte reposait en doute sur des préjugés. En effet, j'ai pu constater plus d'ouverture que certains préjugés ne laissent entendre. Les parents ont un rapport à l'art beaucoup moins éloigné que le présumait l'institution scolaire. C'est d'ailleurs ce que permet de comprendre les travaux en sociologie de la culture. En reprenant les travaux de Pierre Bourdieu, Bernard Lahire a montré qu'aujourd'hui, le rapport à la culture n'est plus aussi homogène qu'il l'a été, mais fait place à une diversité et à moins de hiérarchie entre les genres culturels. Et il appelle ça la dissonance culturelle. C'est ce que Lahire appelle la dissonance culturelle. Et j'ai rencontré cette dissonance à plusieurs reprises lors de mes entretiens. Et je vais vous en donner quelques exemples. Donc, lors d'un entretien, lorsque j'aborde la question des disciplines artistiques, de la classe artistique avec un papa d'élève, celui-ci semble fortement intéressé par le programme de 5e. À ce moment-là, nous étions en 6e. Donc, il semble fortement intéressé par ce programme qui sera consacré au théâtre. Et dans son propos, je sens presque comme un regret. J'essaie donc d'aller plus loin dans l'entretien et développer mon intuition. Et au fil de la conversation, il se dévoile et m'explique qu'il aurait beaucoup aimé faire du théâtre lui-même, que la scène le fascine. Il me précise également qu'il est très timide, qu'il n'a jamais osé. Et il me dit cette phrase assez extraordinaire. Il me dit qu'il est sûr que s'il avait osé, cela aurait changé sa vie. Donc l'exemple est parlant de lui-même. Pour faire une petite parenthèse, là j'ai essayé de prendre quelques exemples les plus significatifs, mais j'ai eu énormément d'exemples, pratiquement sur énormément de familles. Donc un autre exemple significatif, lors d'un entretien, je me retrouve avec une élève de la classe, sa grande sœur et sa maman. Lorsque nous évoquons l'atelier de danse contemporaine, l'élève est très enthousiaste. Elle apprécie beaucoup cet atelier. J'ai assisté moi-même à des répétitions et c'est effectivement une élève douée et très impliquée dans l'atelier de danse contemporaine. Et au fil de la conversation, elle explique que son intérêt de la danse a été suscité par sa grande sœur. Celle-ci était fan, si je puis dire, du cinéma bollywoodien et la petite sœur a donc baigné dans cette culture. Et elle a appris à danser avec ses films. Et elle ne marque pas une distance entre la danse indienne, revisitée par le cinéma bollywoodien, et la danse contemporaine. C'est surtout la notion de plaisir par la danse qui ressort. La maman qui était présente, qui jusque-là écoutait sa fille, intervient à ce moment-là pour donner son avis et précise qu'elle préfère de loin les danseuses qu'on voit sur ce qu'elle appelle la chaîne spéciale, il faut entendre par là Arte, Elle me dit les danseuses qui font des pointes. Donc la danse classique. Il me semble que là, c'est un exemple riche de dissonance culturelle, comme Bernard Lahir l'appelle. Et je pourrais en donner encore quelques-uns, comme cette maman qui tient à ce que ses enfants assistent à des représentations de théâtre pour la jeunesse, et qui me précise que finalement, c'est elle qui y prend le plus de plaisir. Donc, des exemples comme ça, il y en a eu énormément. Donc, on peut dire que ces entretiens ont donc permis d'ébranler les représentations de l'institution, les représentations que l'institution avait des parents issus de milieux populaires, et particulièrement de leur rapport à l'art et la culture. La représentation principale qui ressort de cette vision est souvent un fossé entre ces familles et la culture cultivée, alors que j'ai constaté que les réalités étaient beaucoup plus complexes et individuelles. Donc, le deuxième enseignement qui ressort de cette enquête est une participation non négligeable des familles à la... Je me suis pas trompée de... Oh, pardon. Si. Excusez-moi, j'ai toujours peur de me tromper de... Alors, le deuxième enseignement donc est une participation non négligeable des familles à l'activité culturelle rendue possible par la classe artistique. Donc, celle-ci n'allait pas de soi. Les parents n'étaient pas tous présents. Certes, ils étaient plus nombreux lorsque leurs enfants étaient en représentation, mais un certain nombre d'entre eux sont aussi venus visiter une exposition, voir une pièce de théâtre, etc. Je vais vous rapporter un exemple qui était devenu emblématique pour les enseignants. L'exposition de Martin Rüegg. Donc, lors de cette exposition, une installation à partir de ballons, une forêt de ballons, que traversaient les visiteurs, les parents ont spontanément joué avec les ballons, avec les enseignants et les enfants. Une maman a même ôté son foulard, et pour certains enseignants, cet acte avait pris une dimension symbolique très forte. Il me semble que c'est sans doute une allégorie un peu exagérée, mais elle a beaucoup marqué les esprits. Le troisième enseignement de l'enquête auprès des parents porte directement donc sur la question de médiation. Comme le montre la participation non négligeable des familles, la classe artistique a exercé une fonction médiatrice. Elle a favorisé la rencontre entre tous, parents, enseignants, enfants, sur un autre terrain que le terrain scolaire. Pourquoi la rencontre a été possible ? Parce qu'une expérience esthétique a pu être partagée entre les parents, les enfants et les enseignants. L'exemple de l'exposition de Martin Reed est emblématique. Donc on arrive à la partie de l'enquête de terrain à la formalisation théorique, ce qui ressort de ce travail de terrain. Je suis restée jusqu'à présent sur un terrain essentiellement empirique, sur le terrain de ma recherche. Cependant, vous avez pu constater que certains éléments d'ordre plus théorique commençaient à se dégager. Il me semble que pour expliciter ce qui est ressorti de mes analyses, un recul théorique, une formalisation théorique est nécessaire. Et cette formalisation m'a amené à distinguer trois principales lignes d'analyse. Donc la première ligne d'analyse revient sur la différence d'attitude, de perception, que les enseignants, et les parents ont de leur relation et du collège. Je vous rappelle que les enseignants pensent avoir bien communiqué avec les parents dès lors qu'ils les ont informés, dès lors qu'ils ont éclairé la boîte noire, selon la métaphore que j'ai utilisée précédemment. Mais du côté des parents, l'éclairage de la boîte ne suffit pas pour qu'ils se sentent considérés comme des interlocuteurs à part entière. En termes théoriques, donc, je propose de considérer que les enseignants sont dans un modèle rationnel de communication, le modèle élaboré par le philosophe allemand Jürgen Habermas dans sa théorie critique, donc développée au sein de l'école de Francfort dans les années 20, qui consiste dans une critique de la société capitaliste. Donc le modèle de Jürgen Habermas, c'est le modèle de l'agir communicationnel. Donc c'est un modèle qui fait de l'entente rationnelle la clé de la communication. Et toujours sur le plan théorique, les parents seraient donc dans un modèle qui met la reconnaissance au cœur de la communication. Ce modèle de la reconnaissance a été élaboré par Axel Honneth. À la fois proche et critique d'Habermas, en fait, il dépasse la théorie critique d'Habermas. Selon lui, la rationalité ne suffit pas à assurer l'entente authentique. Pour Axel Honneth, la reconnaissance précède la connaissance et elle implique une communication qui tienne compte des différences. Je remarque que ces deux modèles permettent d'éclairer différemment la problématique de la médiation. Pour Habermas, c'est la raison qui est médiatrice. Pour Axel Honneth, c'est d'abord la reconnaissance. Mais attention, la distinction de deux modèles ne signifie pas que les parents seraient dans le seul registre d'une demande de reconnaissance et d'empathie et indifférents au dialogue rationnel que souhaitent les enseignants. Elle signifie que la mobilisation des parents comme partenaires du dialogue rationnel nécessaire n'est possible et efficiente que sur la reconnaissance, que sur la base, pardon, d'une reconnaissance préalable. Pour éclairer mon propos, il me paraît important de bien comprendre pourquoi Axel Honneth juge nécessaire de dépasser le modèle d'Habermas, d'agir communicationnel. Donc, ce qu'Habermas appelle les actes communicationnels montre que les relations sociales peuvent échapper au rapport de domination. Selon la philosophie sociale d'Habermas, les actes communicationnels sont le signe qu'il existe une forme de rationalité émancipatrice préfigurant une société réconciliée. Pour Habermas, cette entente est déjà là dans l'activité de communication la plus ordinaire. Axel Honneth dépasse ce modèle. Selon lui, l'agir communicationnel ne suffit pas, car il suppose un langage commun déjà là. Le cas des parents de la classe artistique montre bien que ce langage commun... Le cas des parents de la classe artistique montre bien que ce langage commun, tant que l'on reste dans le registre d'entente rationnelle, peut faire défaut. Comme je l'ai développé auparavant, les parents perçoivent les rencontres qu'ils ont avec les enseignants plutôt comme un système auquel ils se sentent étrangers et dans lequel ils ont peine à pénétrer. C'est donc bien l'existence réelle d'un langage commun qui fait question. Les propos tenus par les parents dévoilent le fait que d'être reçu, entendu par les enseignants, ne peut pas être suffisant. L'on perçoit donc chez eux un autre besoin, relevant non de l'entente langagière, mais du sentiment. Un besoin d'empathie. L'entente langagière elle-même passe d'abord par cette empathie porteuse de reconnaissance. Une situation de dialogue très unilatérale peut renforcer chez certains parents affrontés à la loi scolaire le sentiment de l'injustice sociale. Et cela, je l'ai notamment constaté auprès d'une maman interrogée qui refusait que l'on place sa fille en classe d'intégration scolaire. Elle vivait cette orientation imposée comme une relégation sociale profondément injuste. Le seul moyen pour elle d'échapper à ce destin a été le refus par la révolte. Cette attitude illustre concrètement la thèse centrale d'Axel Honneth. Pour lui, les dynamiques de protestation trouvent leurs origines dans une expérience de l'offense, dans le sentiment d'une violation des principes de justice. Donc, on arrive à la deuxième ligne d'analyse. Celle-ci revient sur le sentiment de déni de reconnaissance que semblent ressentir les parents face à l'institution scolaire. Je sais que c'est une idée qui peut choquer certains enseignants, et j'en ai eu la démonstration lorsque j'ai rendu compte de mes travaux lors d'une séance publique. Donc, pour la plupart, ils sont convaincus de communiquer avec les parents en toute bonne foi. De leur point de vue, on peut dire que c'est tout à fait juste. Mais les enseignants ne semblent pas toujours comprendre qu'ils sont dans un modèle de communication différent de celui dans lequel se situent les parents issus des milieux populaires. Ce modèle de communication rationnelle peut renforcer le sentiment d'incapacité des familles populaires. Quand on parle de compétences parentales, particulièrement, les familles qui partagent la même vision que l'institution scolaire, les mêmes codes que la culture dominante, ont de fait cette compétence parentale alors que les familles populaires, en particulier d'origine immigrée, ne disposent pas du même capital socio-culturel, ne possèdent pas les codes nécessaires, ce qui ne fait que renforcer les inégalités scolaires. Il me semble donc important de signaler que ce constat de demande de reconnaissance insatisfaite n'est pas particulier à ma seule enquête. On le trouve dans les travaux de chercheurs reconnus comme Pierre Perrier. Pierre Perrier a fait le constat d'un différend entre les familles et l'école. Il dit donc, loin de se désintéresser de l'enjeu scolaire dont elles ont compris l'importance pour leurs enfants, les familles populaires manquent avant tout de ressources efficaces et leurs modalités d'investissement ne sont pas nécessairement reconnues à et par l'école. Alors qu'elles tentent de se soustraire au jugement de l'école qui indirectement les culpabilise et les humilie parfois. Et là, c'est un extrait de son livre « École et familles populaires, sociologie d'indifférent ». Donc, j'en arrive à ma troisième ligne d'analyse. Je vais regarder quand même l'heure. Okay. Donc, ma troisième ligne d'analyse, enfin, revient sur ce qui est le point de départ, l'origine et la raison d'être de cette enquête, la question de la médiation. C'est donc sur ce dernier point que je conclurai. Donc, au terme de l'enquête et des observations qui ont été conduites, je pense être en mesure de dire que la classe artistique est médiatrice par elle-même, parce que l'art est lui-même médiation. Je voudrais vous en donner quelques illustrations. Le premier, comment l'art a favorisé la reconnaissance réciproque des genres et la tolérance. Pour illustrer ce propos, permettez-moi tout simplement de vous lire en avant-première la description d'une scène qui figure dans le livre « Apparaître, un collège saisi par les arts », un texte d'Alain Kerland. Et je tiens particulièrement à lire ce texte car j'étais présente lors de ce moment. Donc la scène que nous avons retenue a été observée l'année 3e à la médiathèque. Un tiers de la classe y préparait tour à tour l'accompagnement musical de la production finale, réunissant en direct une émission de radio et une performance plastique. L'accompagnement musical combinait l'improvisation à l'aide d'instruments traditionnels africains, notamment percussions et chants. Et le moment qui a attiré notre attention réunit un garçon et une fille pour un duo vocal et une improvisation instrumentale. Et je vais vous lire l'extrait. Mais un autre enjeu que l'enjeu musical, un autre défi habitait cet apprentissage, celui de l'affirmation des genres et de leurs relations. La relation fille-garçon, toujours surdéterminée, explosive en ce moment de l'adolescence. Partager un duo vocal avec l'autre sexe, accepter et vivre ce partage, la tentation de s'en défaire, de se tenir en dehors, à côté, de ne pas s'engager et de montrer qu'on n'y est pas, était bien visible dans la gêne, les sourires en coin, les coups d'œil aux autres, notamment chez le garçon. Elle était encore là au début de l'improvisation instrumentale, mais un déplacement allait progressivement se produire. Il fallait bien écouter la proposition musicale que l'autre essayait timidement sur son instrument de percussion et s'engager un peu à y répondre avec son propre instrument. Et plus ou moins lentement, plus ou moins longuement, pour un très bref instant, mais avec un début de persévérance ici et là, un dialogue par percussion de sa propre voix à celle de l'instrument et de ses sentiments aux sensations sonores commença de se dessiner entre les deux élèves, entre garçon et fille, un dialogue où s'esquissait l'expérience d'un accordage vrai. Donc on peut dire qu'avec cet extrait, enfin en tous les cas la classe artistique, et j'ai vraiment vécu ce moment, et Alain Kerland était présent aussi. On a vraiment participé, on était d'ailleurs que tous les deux pendant ce moment avec l'artiste et les deux enfants. En tous les cas, avec Alain Kerland, on a vraiment vécu une expérience esthétique extrêmement forte. On a vu un petit peu ces deux enfants arriver comme ça. Enfin, le seul moyen que ce moment fonctionne, d'arriver à produire quelque chose, c'était de se regarder, de s'accorder. Et là, on est vraiment arrivé à un accordage parce qu'ils étaient obligés de travailler ensemble et ça a été un très très beau moment. C'est pour ça que je vous le cite. J'ai un autre exemple aussi, mais qui est beaucoup moins poétique. J'écris pas aussi bien que M. Kerland. C'est celui d'une maman qui parlait de son fils et elle m'expliquait qu'elle le trouvait plus tolérant, plus solidaire et dont le rapport avec les filles avait beaucoup changé. Elle m'expliquait que le week-end, ils se retrouvaient tous entre élèves de la classe, filles et garçons, pour s'entraîner. Ils avaient tous construit des liens très forts durant leurs 4 ans de scolarité au collège. Donc je vous précise que la classe artistique était de la 6e à la 3e. Et là, quand elle me parlait de la tolérance de son enfant, elle me parlait en particulier d'une de ses camarades qui était extrêmement ronde, avait des problèmes de poids. Donc elle disait qu'en fait, dans cette classe, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont très proches les uns des autres et ils ne se jugent pas. Donc ça a été vraiment un point qu'il faut vraiment préciser. Parce qu'il y a quelques mamans qui m'ont fait... Je dis souvent des mamans parce que j'ai vu beaucoup plus de mamans que de papas. Hein. Mais il y a quelques mamans qui m'ont fait... qui m'ont précisé que la relation garçon et fille avait quelque peu changé. Donc... Donc là, j'en suis, je ne sais plus où j'en suis. Pardon. Donc, comment les parents ont rencontré les enseignants sur le terrain? Oui, ça, j'en suis à... Je sais, j'en suis... Le 1, c'était donc... On va revenir un petit... Ouais, comment l'art a favorisé la reconnaissance réciproque des genres, hein? Donc, le petit 1. Donc, le 2. Comment les parents ont rencontré les enseignants sur le terrain de l'art, en tout cas d'expérience esthétique partagée? Donc, je vous parlais donc d'expérience esthétique, hein. Et comment ce partage du sensible qu'ont vécu les enfants et les parents, pour les uns dans la pratique artistique et pour les autres dans l'expérience esthétique, est une médiation, voire pour certains, une restauration du regard sur leurs enfants. Et là, je vais aussi donner un exemple, parce que je trouve que les exemples sont très parlants. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une maman qui est en conflit. Alors, cette maman, je l'ai vue plusieurs fois en classe de 6e. Et je l'ai vu aussi, je suis retournée faire des entretiens quand ils étaient en classe de 3e, et je l'ai aussi vu en classe de 3e. C'est une maman que j'avais vue assez souvent. Donc je vais donner cet exemple d'une maman donc, qui était en conflit avec l'école, parce qu'elle n'acceptait pas le choix d'orientation en classe CLIS, dès la classe de 6e, que l'école préconisait pour sa fille, qui était en échec scolaire. Et là, on pourrait dire que la médiation par l'art a doublement agi sur cette maman. Elle a agi sur les relations avec les enseignants qui ont pu s'apaiser, parce qu'elle avait des relations extrêmement conflictuelles. Donc, elle a agi sur la relation avec les enseignants qui ont pu s'apaiser par la découverte les uns des autres sur un autre terrain que le terrain scolaire, et surtout sur la restauration du regard de sur sa fille, la fierté que la classe artistique a produit. Et là, on en a beaucoup parlé, et le fait de regarder sa fille autrement a été extrêmement important pour cette maman. Et je tiens à préciser que la jeune fille a pu continuer sa scolarité jusqu'en classe de 3e. Donc elle a peut-être eu raison de se battre. Alors, comment la médiation par la classe artistique a permis de favoriser la rencontre entre les familles et les enseignants, donc de changer le regard des uns sur les autres, de favoriser une réelle rencontre de proche à proche sur un terrain moins hiérarchisé. Donc on peut dire que pendant ces moments-là, ces moments d'échange, de rencontre, les parents ont pu passer d'une reconnaissance formelle, institutionnelle des enseignants, à une reconnaissance plus personnalisée. Donc les enseignants ont trouvé dans la classe artistique les conditions d'une vraie rencontre et une perception enrichie des parents. Et je tiens à préciser que cette médiation ne peut fonctionner que s'il y a réciprocité, reconnaissance des uns par les autres. D'une façon générale, on peut constater que la classe artistique agit dans les 3 sphères qui composent la reconnaissance. Je vais aller assez rapidement. Donc la première sphère, selon Axel Honneth, hein, la première sphère, c'est la sphère affective. La classe artistique répond au souci d'épanouissement de leurs enfants, qu'ont manifesté tous les parents avec lesquels je me suis entretenue. La seconde sphère, celle où se développe le respect de soi, selon le modèle d'Axel Honneth, c'est la fierté qu'éprouvent les parents du travail, des performances de leurs enfants, qui est le vecteur de la reconnaissance. Et la troisième sphère, enfin, celle de la reconnaissance sociale à travers la classe artistique. Donc, ils peuvent devenir des interlocuteurs reconnus. Mais là, je passe assez rapidement parce que c'est un petit peu compliqué, mais il me tend, je pense que préciser que ces 3 sphères sont importantes. Donc, la conclusion. Donc avant de conclure, je voudrais rappeler que cette fonction médiatrice de l'art, sur laquelle j'ai insisté, a des fondements philosophiques. Ce n'est pas le lieu ni le temps de développer, mais comme Alain Carlan est là, donc philosophe, donc il me semble important de le rappeler. Donc il me semble important de rappeler que Kant faisait du sens esthétique, le sens commun, le sens que nous avons en partage. Que Schiller était convaincu que l'éducation esthétique devait être l'éducation de base de l'humanité tout entière, ou encore que Dewey disait que l'expérience esthétique était chez tout un chacun dans l'expérience ordinaire quotidienne, dès lors qu'elle est une vraie expérience. Donc là, je vais arriver à mes éléments de conclusion. Donc, il y en a pas mal que j'ai arrêté. Donc je pense que s'il fallait résumer en quelques mots, je m'en tiendrai à une idée avancée à plusieurs reprises et sous différentes formes. La toute première tâche dans la perspective de la médiation doit être de mobiliser les effets médiateurs de la classe artistique en tant que telle. À qui confier cette tâche? Il me semble qu'ajouter à nouveau un médiateur aux nombreux et divers médiateurs à l'œuvre dans le quartier et dans l'environnement du collège ne me semble pas opportun. Au terme de ces analyses, je crois pouvoir dire que la médiation nécessaire doit être portée par l'ensemble de l'équipe éducative, collectivement et individuellement. De ce point de vue, multiplier les médiateurs extérieurs n'est pas nécessaire. L'autre point important, il faudrait permettre aux parents d'aller plus loin dans le partage de l'expérience esthétique, culturelle et pédagogique de la classe artistique. Et là, je voudrais ajouter que le souhait parfois exprimé par la chorégraphe qui était en classe de 6e, le souhait d'accueillir aussi les parents dans un atelier de danse peut sembler utopique, mais il s'agit d'une proposition peut-être moins éloignée des familles concernées qu'on pourrait le croire. Et en dernier lieu, je voudrais apporter une petite nuance à mon propos précédent sur l'inutilité d'un médiateur supplémentaire. Il faut tout de même que je tienne compte du rôle d'Euromusique Danse et de mon enquête elle-même. Il me semble important de préciser l'importance d'Euromusique Danse dans son rôle de coordination pour faciliter les mises en place de ces médiations dont la classe artistique est potentiellement porteuse. De même, ma propre enquête a eu des effets médiateurs, me semble-t-il, en donnant une visibilité aux parents, en leur permettant de s'exprimer. Bien sûr, il n'est pas envisageable qu'une campagne d'entretien comparable accompagne systématiquement tout dispositif artistique, mais ce constat de leur fonction proprement médiatrice souligne l'importance d'un espace de parole partagé. Merci de m'avoir écoutée.